14h, 14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
Ah oui, ce jour-là, je me promène dans ce joli quartier de Paris, dans ce marais, nous sommes à peu près à l'angle de la rue de Turenne et de la rue de Villehardouin, un petit peu au nord de l'actuelle place des Vosges, si vous voulez, et là, je suis intrigué par ce bâtiment à la façade ocre, coquille d'œuf pour être tout à fait exact, et par curiosité, je me dis que ce serait peut-être pas mal d'entrer, de pousser la double porte, et en poussant cette double porte, j'ai bien le sentiment qu'il se passe quelque chose, me voici ailleurs, dans un corridor qui donne sur une cour. Il y a des gens un peu étranges. D'abord, je suis étonné par les parfums, par les bruits aussi qui me paraissent assez inhabituels. Et puis, il y a des gens dans des drôles de costumes et je me rends compte que j'ai moi-même un papier à la main. Et voilà ce qui est écrit sur ce papier. Ce soir, si nous joignons nos deux soupers ensemble, je possède un jambon, si tendre que je tremble, que les valets friands, quitte à le nier, n'osent pendant la nuit me le diminuer. Et c'est signé Paul Scarron. Scarron, que je connais bien évidemment, auteur burlesque du XVIIe siècle, dont l'invitation est suffisamment précise, suffisamment joyeuse pour que je la prenne au pied de la lettre. Après tout, j'avance. Je prends l'escalier, il y a toujours ces bruits, mais qui se font plus précis maintenant. Je vois que c'est une conversation qui est à l'œuvre. Et je monte jusqu'à la conversation, si je puis dire, jusqu'à ce deuxième étage, où un valet dont le visage est peu amène entre nous, m'accueille. Et il soupire. « Ah, je vois, encore une future gloire de l'Académie, me dit-il. « Mais pourquoi pas? Pourquoi dites-vous cela ?» répondis-je. Je suis un petit peu piqué quand même par l'ironie du valet, vous l'imaginez bien. « Pardonnez-moi de me montrer si abrupt, monsieur, dit-il. C'est que des auteurs en devenir comme vous, on en voit ici à longueur de temps. Sous prétexte que monsieur Scarron ouvre trop facilement sa porte, vous vous croyez tous obligés d'en franchir le seuil. » Ah ben là, vous vous dites qu'on est bien accueillis hein, quand même. « Vous venez présenter des vers que vous pensez fort bons, puis, comme vous vous plaisez, en brillante compagnie, eh bien vous vous attardez. Peu vous importe qu'on n'ait pas de quoi vous nourrir et que le vin offert ici risque de l'être aux dépens de mes gages. Eh oui, vous savez comment on vous appelle, me lâche le valet. On vous appelle ici les fâcheux. Ah ben dites-moi, ça ne donne pas très envie. Je comprends que l'homme en question puisse être exaspéré par la générosité d'un maître qui est peut-être un peu moins généreux avec ses valets qu'il ne l'est avec ses invités. Bref, l'homme s'interrompt et pointe du doigt la salle de réunion où Scarron reçoit. Salle de réunion, c'est le nom que lui-même donne au lieu où j'entre maintenant, dans une atmosphère très sombre. On n'est plus habitué dans notre 21e siècle à ces atmosphères extrêmement sombres où quelques petites chandelles seulement essaient de lutter contre l'obscurité. Il y a là des rideaux de moquette, des meubles qui me paraissent plus ou moins jaunes. La table est imposante et je vois assises tout autour une douzaine de personnes. Il y a aussi des gens qui sont debout et puis il y a des éclats de rire. Bref, c'est une joyeuse compagnie qui est là. Et on sert du vin, généreusement, on sert de belles tranches d'un beau pâté, et visiblement, tout à sa mauvaise humeur, le valet a oublié de m'annoncer. Ce qui fait que mon entrée, disons-le, passe totalement inaperçue.
Franck Ferrand, sur Radio Classique.
Alors, il faut que je vous décrive un peu cette belle compagnie. Il y a là des femmes élégantes, même piquantes, des hommes qui paraissent appartenir à l'aristocratie, mais qui sont là visiblement plus pour s'encanailler qu'autre chose. Des littérateurs aussi, dont certains doivent être ces fameux précieux dont on dit qu'ils étaient nombreux dans l'entourage de Scarron. Il y a même des ecclésiastiques dont les mœurs doivent être libres s'ils se sont aventurés jusqu'ici. Et tous sont dans cette conversation animée. Scarron vient de lire un extrait d'une œuvre récente, c'est la deuxième partie de son roman comique. Alors, disons-le, pour tout vous dire, j'ai un petit peu de mal quand même à me concentrer, et ça fait beaucoup d'émotion pour un seul homme, se retrouver comme ça, dans cet hôtel particulier d'un marais tellement différent, être reçu, je suis moi-même, j'aurais dû vous le dire, je me retrouve moi-même dans une drôle de tenue, une tenue noire qui peut passer pour une tenue du XVIIe siècle, visiblement, bon... Mon regard se fixe quand même sur celui que j'ai tout de suite reconnu, qui est Paul Scarron. Il est là, sur une espèce de chaise étrange, évidemment, avec son corps martyrisé par la maladie. Vous savez qu'il est difforme, Scarron, il est très particulier. Et là, Il a remarqué tout de suite que je le regardais, peut-être que je m'attardais un peu trop sur ses difformités physiques, et il me lance « Eh bien, monsieur, ne restez pas si loin avec cet air ahuri. Je suis de ceux qu'il faut observer de près, sinon vous y perdez beaucoup. » Ah, je me rends compte que l'humour est une de ces armes, évidemment. Tous les regards, du coup, se sont tournés sur moi. Je n'ose rien dire, même pas vraiment faire un pas. Escarron reprend de plus belle. Soit, puisque vous êtes timide, laissez-moi vous faire le détail. Ma tête est un peu grosse pour ma taille. J'ai le visage assez plein pour avoir le corps très décharné. J'ai la vue assez bonne, quoique les yeux gros. J'ai ses yeux bleus, me dit-il. Effectivement, c'est ce que semble dessiner la lueur des chandelles. J'en ai un plus enfoncé que l'autre, du côté où je penche la tête. Mes dents sont de couleur de bois et seront bientôt de couleur d'ardoise. J'en ai perdu une et demie du côté gauche et deux et demie du côté droit. Mes jambes et mes cuisses ont fait d'abord un angle obtus, et puis un angle égal, enfin un angle aigu. Mes cuisses et mon corps en font un autre, et ma tête se penchant sur mon estomac, je ne ressemble pas mal à un Z. Un Z. J'ai les bras raccourcis aussi bien que les jambes. Enfin, je suis un raccourci de la misère humaine. Et tout le monde éclate de rire, bien entendu. Moi, je suis un petit peu stupéfait. Ça amuse encore plus la compagnie. Alors, on va pas s'attarder sur moi, disons-le. L'une des femmes élégantes se met à parler de la dernière fête qui vient de se tenir à la cour et elle met dans sa relation, dans son histoire, mille détails truculents sur un ton léger, insinuant. Elle captive l'assistance, disons-le. Et au moment où elle laisse enfin la parole à un autre, un des hommes qui est là debout un petit peu à l'écart s'approche de moi, je ne l'ai même pas vu venir, et il me dit, presque en chuchotant et d'une voix où je sens percer, où je sens poindre une admiration non feinte, « Madame de Sévigné est décidément trop rare ici, personne ne raconte comme elle. » Eh bien oui, c'est vrai, je peux en témoigner. L'homme en question se présente, je lui demande de se présenter. « Pierre Mignard, me dit-il. » Mignard, le peintre, et ma réaction le fait sourire. « Si vous aimez la peinture, vous venez trop tard chez ce cher Scarron. Il y a peu encore, vous auriez vu ici le ravissement de Saint-Paul par Nicolas Poussin, me dit-il, une œuvre admirable. Mais les Scarron ont dû se résoudre à s'en séparer pour régler quelques dettes. » Et il ajoute, « Si vous le voulez, mettons-nous là, près de la fenêtre, et causons un peu, vous rendez compte. » Causer comme ça, familièrement, avec Mignard, c'est tout à fait inespéré. Le clavecin très délié de Jean Rondeau interprétait ses tambourins de Pancrace Royer.
Vous écoutez Radio Classique.
Visiblement, M. Mignard a eu l'intention de me rassurer. Ne vous chagrinez point de la façon dont Scarron vous a accueilli, me dit-il. Son apparence étonne toujours quand on le rencontre et il a pris le parti de s'en amuser. Et il a l'air sympathique, ce peintre que le vin a l'air de pousser à quelques confidences. Vous savez, ajoute Monsieur Mignard, Scarron n'a pas toujours été ainsi. Pendant sa jeunesse, il plaisait beaucoup. Croyez-moi ou non, mais il a été au mieux avec la magnifique Marion Delorme. Ce genre de succès a poussé son père à intervenir. Il lui a trouvé au plus vite une place de secrétaire chez l'évêque du Mans. C'est à ce moment-là que sa maladie s'est déclarée, demandai-je. D'après ce que l'on m'en a dit, ça a commencé il y a à peu près 20 ans. Le bon évêque qu'il servait est mort, et pour se divertir de son chagrin, Scarron, qui à l'époque n'avait pas 30 ans, a voulu participer au carnaval à sa façon. Pour distraire le monde, il s'est grimé en poulet. Oui, monsieur, en poulet. Il s'est badigeonné le corps de je ne sais quelle résine et il s'est collé des plumes partout. Et puis il s'est présenté en caquetant au beau milieu de la fête. Ça a fait son petit effet. Reste que tout le monde, par jeu, s'est mis à lui retirer les plumes, une à une. Sa pudeur lui a alors inspiré une retraite stratégique. Notre ami, pour échapper au fêtard, a même dû trouver refuge dans une rivière. Malheureusement, cette histoire plaisante se passe en hiver, et c'est précisément ce qui, soudain, la rend fort déplaisante. Scarron a été saisi par la froidure de l'eau, et de là lui est venu le mal que vous voyez. Ça paraît extraordinaire ce que raconte Mignard, qui réalise peut-être qu'il s'est montré sous l'effet du vin, un peu trop indiscret, et qui change de sujet. Il entreprend de me présenter maintenant un certain nombre des personnes éminentes qui sont là, présentes ce soir autour de la table de Scarron, qui sont dans ce salon jaune. « Voyez cet homme au visage grave, me dit-il, qui tourne un peu le dos à Madame de Sévigné. C'est monsieur le maréchal de Turenne. »« Alors là, je n'en crois pas à mes oreilles. »« Si, si, me dit-il, le meilleur officier du royaume, le vainqueur de Condé, figurez-vous. » Il s'exprime peu, mais n'aime rien mieux qu'être en bonne compagnie pour se divertir de ses gloires. Et en face de lui, là, l'homme négligé près de Scarron, qui parle sans arrêt de lui-même. C'est Ménage, un grand poète, un compagnon douteux et une âme qui a la folie de ne point craindre Dieu. Décidément, M. Mignard aurait pu, à côté de ses tableaux, écrire quelques relations lui-même. Il parle à merveille. Il s'adresse à Miossens, maréchal d'Albret, qui, vous pouvez en juger, ne l'écoute guère. Le beau maréchal est trop occupé à observer la douce Madame Scarron. Et là, en effet, je réalise que la femme du pauvre infirme qui devise maintenant en riant, un peu à l'écart avec Madame Scarron, que la femme n'est autre que Madame de Maintenon. Mais elle est toute jeune encore pour l'instant, Madame Scarron. Elle est appelée un jour à devenir, vous imaginez cela, la femme de Louis XIV. Et tout de suite, j'essaie de la dévisager. Madame Scarron a peut-être le teint un peu hâlé pour le goût de l'époque. Hein. Les femmes sont très blanches au XVIIe siècle, mais elle est d'une beauté absolument resplendissante. Elle a surtout des yeux très sombres, étonnants, des yeux magnifiques qui soulignent ce qu'on devine être une autorité naturelle. Évidemment, moi qui connais la suite de l'histoire, je suis peut-être un peu influencé en vous disant cela, mais il n'empêche qu'on sent chez elle beaucoup d'intelligence mêlée à une véritable délicatesse. Ah, j'aimerais être un petit peu plus près de Madame Scarron pour entendre ce qu'elle raconte à Madame de Sévigné. Mignard remarque que je suis un petit peu obnubilé par la maîtresse de maison. Ses yeux-là sont parmi les plus admirés de Paris, me dit-il. Les plus redoutés aussi. Madame Scarron a le jugement sûr, tient plus que tout à sa vertu, et c'est mieux que quiconque tenir les galants à distance respectable. Le maréchal d'Albret en sait quelque chose. Songez qu'elle a trouvé judicieux de se rapprocher de sa femme. Voilà un bon garde-fou quand on craint de s'attendrir. Madame Scarron ne se montre pas trop décourageante toutefois. Une bonne maîtresse de maison ne rebute point ce qu'elle attire de précieux. Ah, monsieur Mignard, vous êtes un véritable moraliste. Alors, je peux me poser la question, est-ce que le peintre a dit cela pour être plaisant, ou est-ce qu'il y a derrière un fond de vérité? Il me semble que c'est plutôt la deuxième solution. Et à ce moment-là, voici que quelqu'un entre dans le salon. Et alors, d'un seul coup, on fait silence. Eh oui, c'est Ninon. Ninon de l'Enclos, dans une robe splendide, la scandaleuse Ninon. Madame Scarron se lève pour aller à sa rencontre. Visiblement, ces deux-là ont beaucoup à se dire. We'll be right back.
L'entrée des génies, des voyages de l'amour, l'opéra de Boismortier, le concert spirituel était dirigé, comme il se doit, par Hervé Niquet.
Franck Ferrand, sur Radio Classique.
Je les regarde, j'observe Ninon et Madame Scarron et cette Françoise qui deviendra Madame de maintenant. Et je suis frappé par leur différence. D'un côté, vous avez la beauté douce et digne de Madame Scarron, et de l'autre, alors, toute la séduction altière, provocante d'une Ninon, tellement sûre d'elle. C'est difficile d'imaginer que ces deux femmes puissent être amies, et pourtant, elles le sont. Et Monsieur Mignard, qui est toujours là à côté de moi, et qui semble lire dans mes pensées, confirme « Voilà une liaison qui étonne Paris », dit-il. Mais les esprits fins savent se rencontrer et parfois se séduire. À vrai dire, les femmes mariées prient pour que Madame Scarron convertisse Ninon, quand bien des hommes se damneraient pour que l'inverse se produise. Beaucoup d'humour, décidément, ce Mignard. Alors Ninon s'est assise, et aussitôt, faut imaginer les bourdons là autour de l'abeille. Scarron s'en amuse lui-même. Il joue d'ailleurs les amants empressés, ça fait rire tout le monde. Et on rit beaucoup, décidément, dans ce salon. On moque les nombreux soupirants que Ninon rend malheureux. Les rimeurs s'en donnent à cœur joie. Leurs portraits, disons-le, pour le moins lestes, sont assez féroces. Et Ninon alimente tout cela avec des observations qui sont fines, par ailleurs. Et tout près d'elle, il y a cet abbé qui multiplie les plaisanteries agrémentées de jurons au risque de s'attirer une mourée probatrice de la maîtresse de maison et d'un certain nombre d'invités un peu plus réservés que les autres. Scarron n'en enchaîne pas moins avec des anecdotes légères sur le temps de la Fronde, à l'époque où il était un redouté auteur de Mazarinade. Après quelques phrases à double entente, le voilà qui se tourne vers moi. J'allais dire « Ah, de nouveau !» Ne soyez pas surpris, monsieur, ma maison est celle de France où l'on dit le plus de coyonneries. Mais je soutiens que sans elle, toute conversation doit périr à la longue. Et puis il remarque son verre vide et il s'adresse à un domestique. Rapportez donc un peu de vin de Touraine. Il est le secours du poète souffrant et la récompense d'une compagnie inspirée, dit-il. Et il ajoute, sans Bacchus et Cérès, Vénus, Grelotte et Gel, et Cupidon à jeun ne bat plus que d'une aile. Et tout le monde rit toujours. Et cette conversation va se poursuivre. Ces verres vont se vider de nouveau et encore. Et moi, je ne me lasse pas d'observer ces personnages si différents dont Mignard me parle encore. Ici, on peut dire que bat, que vit, que résonne l'esprit du XVIIe siècle. Pas encore polissé, hein, on n'est pas encore dans le XVIIe de Versailles, bien entendu. C'est un esprit brillant, primesautier, un peu vert parfois, souvent délesté des excès de préciosité que l'on pourrait trouver dans un certain nombre des salons voisins de celui de Scarron. Scarron très malade d'ailleurs, hein, qui se fatigue et l'heure est déjà avancée. Le poète visiblement ne souhaite plus que le calme. Il a peut-être l'intention d'écrire et la compagnie naturellement le comprend. On se met à jouer aux cartes tandis qu'une écritoire est mise en place sur la chaise du poète. Je me dis peut-être qu'il est temps pour moi de m'éclipser, de quitter ce rêve éveillé. Je m'approche de Scarron. Je le salue, mes yeux se perdent sur son écritoire et je lis des vers qu'il était en train d'écrire. Et c'est un hommage à sa femme, figurez-vous. Il y évoque celle par qui le ciel soulage son malheur, digne d'un autre époux comme d'un sort meilleur. Ah, il est loin d'imaginer, Scarron, à quel point son sort ne tardera plus à être exaucé. C'est avec cette pensée en tête que je salue Madame Scarron alors qu'elle s'apprête elle aussi à se retirer pour aller passer la fin de la soirée dans ses appartements juste à l'étage au-dessous. Puis Mignard, que je remercie très chaleureusement, lui serrant la main des deux miennes et en le remerciant de m'avoir si joliment servi de guide et avec tant d'esprit. Enfin, je quitte cette petite société, je quitte cet hôtel de l'impécuniosité comme on l'a appelé, je descends l'escalier, je traverse la petite cour. Il est difficile au bout du corridor de rouvrir la porte sur la circulation du XXIe siècle.
Vous écoutez Radio Classique.